8h22 à Paris lors de la revue de presse. Bonjour Norbert Navarro.
Bonjour Magali, bonjour à tous.
À la une de la presse française, le recueillement en Italie pour les funérailles nationales de la catastrophe de Gênes. Le recueillement, mais aussi la colère.
Oui, c'est en effet une journée de deuil national qui a été proclamée en Italie. Les funérailles seront présidées par le chef de l'État Sergio Mattarella. Et en effet, si l'heure est au deuil, Le Figaro souligne aussi le sentiment de colère qui sourde parmi les familles des victimes de l'effondrement du pont d'abord, parmi la population italienne en général ensuite. Étant rappelé que le bilan toujours provisoire est de 38 morts et 5 disparus, les cercueils seront alignés dans le pavillon Jean Nouvel de la foire de Gênes, pointe Le Figaro, retirés par leurs familles qui marquent leur défiance envers l'État. 17 manqueront. Hier, veille des obsèques, les familles des victimes étaient révoltées, lance ce quotidien.
Et pour le nouvel gouvernement italien, c'est aussi la première épreuve.
Oui, la Ligue et le mouvement 5 étoiles traversent leur premier grave conflit depuis la constitution du gouvernement le 1er juin, souligne encore Le Figaro. Le ministre du Développement économique, Luigi Di Maio, veut retirer immédiatement sa concession à Autostrade au prix d'entorse au code des travaux publics. Son collègue de l'intérieur, Matteo Salvini, plus proche du monde de l'industrie, temporise. De quoi indigner le journal La Voix du Nord. Au-delà du seul drame de Gênes, ce quotidien du septentrion français reproche aux électeurs italiens d'avoir porté au pouvoir des illuminés qui savent beaucoup mieux que les ingénieurs si un viaduc résistera et des idéologues qui pensent à coups de stéréotypes. Tout est la faute de l'Europe, des étrangers et de la finance internationale, énonce et dénonce La Voix du Nord, croyant rompre avec le système qui les avait déçus. Les électeurs italiens ont porté au pouvoir des hommes sans expérience de gouvernement, sans colonne vertébrale intellectuelle et sans aucune décence. En lutte contre l'Union européenne, M. Salvini a aussitôt enfourché son cheval de bataille pour rendre l'Europe responsable de la tragédie, ce qui est sans doute pour le moins une manière cavalière pour engager la campagne électorale de l'élection européenne de 2019, remarque la presse de la Manche. Malheureusement, cela ne correspond pas à la réalité.
Des obsèques encore, Norbert, celles d'Aretha Franklin, elles auront lieu le 31 août.
Oui, c'est confirmé, les funérailles de la chanteuse américaine, reine de la soul music, seront célébrées dans une église de Détroit, sa ville natale. Reportage sur place de Libération ce matin, devant l'église du père d'Aretha Franklin, où l'artiste a fait ses débuts et où fans, voisins et proches sont venus hier soir lui rendre un hommage spontané, constate ce quotidien parmi les fleurs, les ballons, les bouquets et les pancartes. Entre plusieurs blocs de maisons abandonnées, un parking et une station-service, la New Bethel Baptist Church, pour laquelle le père d'Aretha Franklin officia de 1946 à 1979, fut l'épicentre du mouvement des droits civiques à Détroit, raconte Libé. Martin Luther King, James Meredith et Jesse Jackson y défilèrent au micro. Y furent célébrées les funérailles de Dinah Washington, de la fondatrice de The Supremes, Florence Ballard, ou du chanteur du groupe The Temptations, David Ruffin. L'église, installée dans ce bâtiment depuis 1964, est à deux rues de la Motown, la légendaire maison de disques, qui déménagera dans les années 70 à Los Angeles, poursuit encore Libération.
Rencontre au sommet ce soir en Allemagne entre Angela Merkel et Vladimir Poutine. Il sera notamment question, Norbert, de l'approvisionnement en gaz russe de l'Europe.
Oui, c'est dans un château du Land de Brandebourg que la chancelière allemande a invité le président russe à dîner. Au menu, la Syrie, l'Ukraine, mais aussi en effet le gaz, avec le projet de gazoduc Nord Stream 2, qui, à partir de l'an prochain, reliera la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique. Le journal Libération précise que ce pipeline prévoit d'acheminer 55 milliards de mètres cubes de gaz russe vers l'Europe par an, soit plus du double de ce qu'achemine déjà le pipeline nommé Nord Stream 1, inauguré, lui, en 2011. Le tout en contournant l'Ukraine, privant de royalties, c'est-à-dire de taxes de transit du gaz russe sur son sol, ce pays soutenu par l'Union européenne dans le conflit qu'il oppose à la Russie et qui, faut-il le rappeler, s'est soldée par l'annexion russe de la Crimée. Mais s'il n'y avait que l'Ukraine, la Commission européenne estime également que le projet nuit à l'indépendance énergétique de l'Union européenne, souligne Libé.
Oui, car entre ces deux-là, Merkel et Poutine, le courant passe mal, or il doit passer.
Oui, comme le résume d'un titre Le Figaro, ces deux dirigeants se rencontrent une fois encore ce soir pour renouer un dialogue difficile. Car même s'ils se côtoient depuis 13 ans, se tutoient et parlent chacun la langue de l'autre, Angela Merkel et Vladimir Poutine entretiennent des relations que ce journal qualifie d'éminemment mauvaises. Et ce, depuis l'annexion donc de la Crimée par la Russie en 2014. La chancelière allemande est même devenue l'opposante numéro un du président russe au sein de l'Union européenne, énonce Le Figaro. Alors, il y a Donald Trump. Depuis que le président des États-Unis est entré en piste, la politique américaine représente un danger pour l'économie russe et menace les intérêts allemands, explique encore ce confrère. D'où ce rapprochement nécessaire de ce soir, aussi bien sur le dossier du gaz que sur celui de l'Iran. Berlin et Moscou s'opposent tous les deux aux menaces que Donald Trump laisse planer sur les entreprises qui poursuivent leurs activités en Iran, rappelle Le Figaro. Alors au château de Messerberg ce soir, Merkel et Poutine devraient probablement mettre de l'eau dans leur vin et tenter d'en retirer dans leur gaz.
Merci Norbert Navarro. Le journal Afrique, c'est dans une minute.